enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Après avoir demandé réellement au Saint-Esprit ce que l'Église avait besoin, et c'est vraiment, eh bien, par une conviction de l'esprit que je vous apporte ce message. 4 dangers pour notre foi. Frères et sœurs, mon désir n'est pas uniquement de voir des hommes et des femmes sauvés, même s'ils brûlent dans mon cœur. Mais mon désir est également de voir les sauvés rester sauvés. C'est une chose de gagner les perdus. Mais c'est une autre de voir des hommes et des femmes terminer la course qu'ils ont commencée. Cela fait maintenant, je peux le dire, des années que je sers le Seigneur. Cela fait, eh bien, 30 ans que, ayant pleinement conscience de ce que signifie suivre Jésus, être chrétien, j'ai pu rencontrer des centaines et des milliers de personnes. Et j'ai entendu de grandes confessions de foi. J'ai entendu, eh bien, des paroles merveilleuses sortir de la bouche de beaucoup de croyants. Mais j'ai malheureusement également, au travers de toutes ces années, vu des centaines ne pas tenir l'engagement qu'ils ont pris. Et si je me réjouis de voir un homme être sauvé, je me réjouis plus encore de le voir terminer la course en rentrant au ciel sauvé. Ouvrons la parole dans 1 Timothée 1. Versets 18 et 19. Timothée, mon enfant, je te confie cette recommandation conformément aux paroles prophétiques qui t'ont été prononcées autrefois à ton sujet. Que ces paroles soient ta force dans le bon combat que tu as livré. Garde la foi et une bonne conscience. Quelques-uns ont refusé d'écouter leur conscience et ont causé ainsi le naufrage de leur foi. Je m'adresse à nous tous qui sommes ici. Quelques-uns, dira l'apôtre Paul, n'ayant pas écouté leur conscience, ont provoqué le naufrage de leur foi. Un naufrage, c'est l'interruption dramatique d'un voyage. C'est un échec. C'est une catastrophe. Et lors d'un naufrage, il y a différentes raisons qui peuvent être la source du naufrage. L'apôtre Paul dira que quelques-uns ont refusé d'écouter leur conscience et ont causé ainsi le naufrage de la foi. Certaines personnes affirment une fois sauvé, toujours sauvé. J'aimerais vous dire ce matin, ce n'est pas vrai. Est-ce que cela veut dire que nous vivons dans l'incertitude de notre salut? Non, l'Esprit de Dieu atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous avons donc une certitude intérieure que nous sommes enfants de Dieu et sauvés. La Bible me rappelle que celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. M'amène aujourd'hui avec d'autant plus d'insistance à nous rappeler que nous avons une responsabilité, non seulement celle de recevoir Christ, mais celle de persévérer sur le chemin qu'il nous a tracé. Il y a, dit l'Écriture, beaucoup d'appelés, mais malheureusement, peu d'élus. J'ai vu beaucoup de « oui, Seigneur », j'ai entendu beaucoup de merveilleuses confessions. Mais ces mêmes gens, aujourd'hui, sont loin de Christ, voire renient ce qu'ils ont vécu et vivent pire que les païens. Une fois que je suis sauvé, je dois rester attaché à mon Seigneur. Le salut va en parallèle des promesses dans la Bible. Dans la Bible, vous avez toujours des promesses accompagnées de conditions. Si tu, alors. Si tu m'obéis, alors. Celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Il y a une condition, croire, être baptisé. Ensuite le salut. Il y a toujours promesse et condition qui accompagnent. Notre condition pour être sauvé, c'est que nous demeurions dans la foi. Pourquoi ? Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Si nous marchons, ce n'est pas par la vue, c'est par la foi. Ce qui signifie que ceux qui font naufrage par rapport à la foi ne peuvent plus marcher. Est-ce que cela signifie que quelqu'un qui a fait naufrage soit condamné à rester dans cette situation-là? Eh bien, je dirais qu'il n'y a qu'un cas qui est cité dans la parole de Dieu. Ceux qui ont péché contre le Saint-Esprit. Et vous savez, péché contre le Saint-Esprit, en fait, c'est dire définitivement non à Jésus. Lorsque vous péchez contre le Saint-Esprit seul peut vous convaincre de péché de justice et de jugement. Si lui ne vient plus vous convaincre de péché de justice et de jugement, vous n'avez même plus la capacité de vous repentir. Parce que le seul qui mène à la repentance, c'est le Saint-Esprit par l'œuvre qu'il accomplit dans nos cœurs. Si nous l'attristons, il se retire et là alors nous sommes condamnés, quoique vivants déjà. J'ai vu des hommes, des femmes faire naufrage momentanément, se repentir et revenir dans un profond brisement. Et j'ai vu le Seigneur dans sa grâce les rétablir. Il me semble qu'il est beaucoup plus avantageux pour chacun d'entre nous de ne pas faire naufrage. Et j'aimerais voir avec vous quatre raisons qui peuvent vous amener à faire naufrage par rapport à votre foi. Je rappelle que cette liste n'est pas exhaustive. Ces quatre points que j'ai eus sur mon cœur. Il y a certainement d'autres raisons encore, mais j'aimerais insister sur celle-ci. Premièrement, dira l'apôtre Paul, ils ont fait naufrage pourquoi ? Parce qu'ils ont refusé d'écouter, dit l'Écriture, la voix de leur conscience. Foi et conscience vont toujours de pair. Si notre foi n'est pas authentique, nous serons entraînés à pécher et nous n'aurons plus bonne conscience. Et quelqu'un qui pêche et qui ne se repent plus, qui ne se détourne pas de son péché, n'a pas une foi véritable, mais il va se donner de fausses doctrines pour calmer cette conscience. Je vous donne un exemple d'une doctrine fausse et dramatique conduisant des millions de personnes dans l'erreur. Avez-vous déjà entendu cela ? Dieu est tellement bon que tout le monde sera sauvé. J'aimerais vous dire que c'est faux, c'est un mensonge. Dieu est tellement bon, oui, qu'il exerce la justice. Dieu est tellement bon qu'il donne son Fils. Mais celui qui refuse la grâce qu'il reçoit dans le Fils Jésus est condamné et perdu. Dieu nous parle par le moyen de la conscience. Qu'est-ce que la conscience ? Dieu, par le moyen de la conscience, a placé en tout homme, croyant et non-croyant, je le disais hier, un juge que l'on appelle la conscience et qui va donner son verdict, que ça nous plaise ou que cela ne nous plaise pas. Les non-croyants ont une conscience. Dieu a placé la conscience dans l'homme. Et cette conscience le juge en fonction du bien et du mal qu'il fait. Lorsqu'un homme assassine quelqu'un, sa conscience l'accuse. Il sait qu'il a tué quelqu'un. Lorsqu'un homme trompe sa femme, du moins la première fois, sa conscience lui parle et l'accuse. Un menteur est travaillé par sa conscience. Le non-croyant a donc une conscience. Cependant, nous sommes dans un monde qui, est en train d'essayer de faire descendre la barrière de la conscience le plus bas possible pour pouvoir faire ce qu'ils veulent. Pour être libre, il faut piétiner les valeurs de la conscience et les valeurs morales. Alors le monde va accuser l'Église et va dire à l'Église, vous êtes des moralistes. Le monde va accuser les croyants. Aujourd'hui, c'est qui qu'on accuse ? Eh bien, c'est ceux qui lèvent leur voix contre l'avortement. C'est eux qui deviennent les responsables. On baisse le niveau de la conscience pour mieux assouvir les désirs les plus impurs produits par le péché. On nous dit qu'en avortant un enfant à 12 semaines, c'est pas grave parce que c'est pas encore un enfant. Mais alors à combien de semaines c'est un enfant ? Et qu'est-ce qui fait que 3 semaines plus tard ce sera un enfant ? Qu'est-ce qui fait qu'à 8 mois c'est un enfant ? S'il n'est pas à un jour, pourquoi le serait-il à 8 mois ? À partir de quand est-il un enfant ? J'étais un jour dans un train avec un Coréen, il me disait, chez nous en Corée, l'âge des enfants n'est pas compté à partir du jour de la naissance, mais à partir du jour de la conception. Là au moins, quand tu avortes, tu sais que tu tues. Et frères et sœurs, nous sommes dans cette génération-là qui a rabaissé la conscience au niveau le plus bas pour nous faire croire que l'homosexualité c'est normal, pour nous faire croire que l'adultère c'est normal. Il faut pouvoir assouvir ses sens. Et tout ce qui s'élève contre, on l'appelle aujourd'hui mal. Comme Paul le disait, le mal sera appelé bien et le bien sera appelé mal. Ça c'est pour les païens. Qu'en est-il des croyants ? Eh bien si les païens ont une conscience, les croyants ont une conscience bien plus aiguisée encore. Parce que le Saint-Esprit, lorsqu'il vient en nous, prend le contrôle de notre conscience. Le Saint-Esprit va au travers de ta conscience te parler et te mener beaucoup plus loin dans la sanctification que tu ne pourrais y arriver si tu ne connaissais pas le Seigneur. La parole vient, la Bible nous dit qu'elle est comme une épée à double tranchant, elle tranche. Et notre conscience est à partir du moment où la parole habite dans notre cœur, en train de nous aider à marcher dans la voie de la sainteté. Ceci dit, cela augmente notre responsabilité. Ceci dit, cela nous oblige d'être d'autant plus vigilants que nous savons que Dieu nous parle par notre conscience et donc nous devons écouter. Mon frère, ma sœur, négliger ta conscience reviendrait, pour prendre une image, à négliger la douleur que tu peux avoir dans ton corps. Pourquoi la douleur est-elle là ? La douleur en général est le système naturel d'alarme que Dieu a placé dans nos corps pour nous dire « il y a quelque chose qui va pas ». Quand j'ai mal aux dents, la douleur est là pour me dire « il y a dans ta bouche ». Eh bien quelque chose qui dysfonctionne. Quand nous avons une douleur dans notre corps, en règle générale, il y a une raison. Et c'est comme une alarme, un système d'avertissement. Mon frère, ma sœur, la conscience joue exactement le même rôle pour ta vie spirituelle et morale. Quand ça ne va plus, la voix de la conscience s'élève. Quand tu vas vers le péché, la voix de la conscience te parle et le Saint-Esprit te parle par la conscience. Mon frère, ma sœur, négliger la voix de la conscience, ce serait comme si le capitaine d'un bateau négligeait les avertissements du radar. Lorsque nous n'écoutons plus la voix de la conscience, nous sommes en danger au niveau de notre foi. Et aujourd'hui, malheureusement, je me rends compte que beaucoup de croyants n'écoutent plus la voix de leur conscience. Ils outrepassent. Regardez dans la suite du texte, il est dit dans Timothée 1, 20, « Parmi eux, donc ces gens-là qui ont perdu la foi parce qu'ils n'ont pas écouté leur conscience, se trouvent Hyménée et Alexandre. Je les ai livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne plus faire insulte à Dieu. » Cette déclaration peut sembler surprenante. Cela mérite quelques explications. Tu es ou dans le royaume de Dieu ou dans le royaume de Satan. Vous ne pouvez pas être entre les deux. Il n'y a pas d'entre les deux. Lorsque quelqu'un sort du royaume de Dieu, il se retrouve automatiquement dans le royaume de Satan. Et lorsque Paul dit « Je les ai livrés à Satan », il le dit dans le sens où il a livré leur chair, afin que peut-être Satan vienne, que par la maladie, par la souffrance, ils viennent à une vraie repentance, ils soient sauvé pour l'éternité. Paul va jusqu'à souhaiter que, même si Satan les malmène, les rend malades, peut-être les mène à la mort, que dans ces moments-là, ils soient tellement éprouvés, que revenant à leur bon sens, ils se repentent pour leurs péchés, et ils soient sauvés. Cela vous montre à quel point Paul désirait le salut. Il me semble qu'on ne prenne plus le salut au sérieux. Les chrétiens sont devenus légers. Trop léger, léger avec le péché. On pêche et on vient à l'église sans problème. La conscience nous a parlé plusieurs fois, mais ça fait longtemps qu'on ne l'écoute plus, la voix de la conscience. On a toujours de bonnes raisons pour ne pas l'écouter. Mon frère, ma sœur, tu es en danger. Et si ce matin je crie de tout mon cœur, c'est parce que l'Esprit de Dieu m'a dit de te parler de cela. Paul aimait tellement ces hommes, malgré le fait qu'ils ont abandonné la foi, il les aimait tellement qu'il est même prêt à aller jusqu'à les livrer à Satan. Parce que pour Paul, ce qui est important, c'est plus le royaume de Dieu à venir que la terre présente. Un deuxième danger, une foi dont le fondement n'est pas solide. Dans Luc 6, 46, 49, il est dit « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Le premier point qui met ta foi en danger, c'est le fait de ne pas écouter ta conscience. Mais le deuxième, c'est avoir un fondement qui n'est pas solide. Je dirais la tendance naturelle de chaque être humain, vous et moi, eh bien c'est de creuser le sable. La tendance naturelle de tout être humain, c'est le chemin de la facilité. Lorsque vous vous mettez à creuser un fondement dans le sable, eh bien, va en résulter une théologie du bien-être, dans laquelle s'appliquent tous les versets de la Bible. Qu'est-ce que j'appelle une théologie du bien-être ? Eh bien, on a une foi qui se sert de Dieu pour soi, et non pas une foi qui sert Dieu pour lui. Et on récite les versets les uns après les autres. On les connaît bien, tous les versets sur la guérison divine. Mais on ne cite jamais les obligations qui les accompagnent. On cite tous les versets pour la bénédiction matérielle. Et je crois à la bénédiction matérielle. Cependant, elle appartient à Dieu. Et il donne quand il veut, comme il veut. Ce n'est pas l'objectif. La théologie du bien-être va vous amener à avoir toute une culture de la Bible de laquelle vous n'allez tirer que la substance qui vous convient. Mais commencez à parler de renoncement, commencez à parler de crucifixion de la chair, commencez à parler de laisser les biens matériels, commencez à parler de laisser les grandes carrières, commencez à demander du sacrifice. Et la théologie de la chair disparaît. Mon frère, ma sœur, cette attitude te mène à être en danger pour ta foi. Alors on est chrétien, on vient à l'église, mais de manière inavouée, on vient à l'église pour être béni dans sa famille, on vient à l'église pour réussir au travail, on vient à l'église parce que Dieu doit nous bénir pour que nous nous enrichissions, on vient à l'église pour être toujours en bonne santé, on vient à l'église en fait pour soi, et encore une fois pour soi. Et le jour où Dieu ne donne plus, ces gens-là en général perdent leur foi. Mon frère, ma sœur, où en es-tu ? On se donne une foule de docteurs qui nous disent des choses qu'on a envie d'entendre. Lorsqu'ils ont prêché, on est content. Ils satisfont pleinement ce qui nous convient. Ils satisfont notre chair. Ils nous laissent croire que parce que nous sommes chrétiens maintenant, eh bien, tout est à notre disposition. Sans renoncement, sans brisement, sans mort à soi. Frère, sœur, ne te laisse pas tromper. Cette théologie-là te mènera à la ruine. Elle est un mensonge. Je crois au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu qui bénit. Mais je crois aussi au Dieu d'Abraham qui dit « quitte ton pays, quitte ton confort ». Mais je crois aussi au Dieu d'Abraham qui dit « donne-moi ton fils Isaac ». Donne-moi celui que tu aimes. Oui, je crois à la bénédiction d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais je crois aussi à l'obéissance de nos pères dans la foi. Et l'obéissance consiste à faire non pas ce que j'ai envie de faire, mais ce que Dieu veut que je fasse. L'église de Jésus-Christ est en danger parce qu'elle ne fait plus ce que Dieu veut, elle fait ce qu'elle veut. Et parfois sous des aspects très spirituels. Vous savez, c'est pas les gens qui ont l'apparence la plus spirituelle qu'ils sont le plus. Avec les années, j'ai appris, et j'ai vu, et j'ai expérimenté. Et je sais que ce que la parole dit là est la vérité. La théologie du bien-être tient, elle tient jusqu'au moment de l'épreuve. Je vais vous dire une chose, ceux qui ont bâti sur le sable, en général, vous avez même l'impression qu'ils réussissent mieux que vous, parce qu'ils construisent plus vite. On a l'impression qu'ils avancent beaucoup plus vite que les autres. On se dit, waouh, ce frère-là, il va aller loin. Il construit vite, pendant que toi, tu es en train de creuser le rocher de ton cœur, qui souvent est dur comme pas possible. L'autre a décidé de laisser cela. Et puis c'est la bénédiction, c'est la joie, c'est la paix, et toutes ces choses-là j'y crois, comprenez-moi bien, j'y crois pleinement et j'en bénéficie pleinement. Cependant, tu le vois avancer, il construit et sa maison avance très vite. Et toi tu te dis mais moi j'ai du mal, moi j'ai des luttes, j'ai des combats. Et puis tu apprends ce que c'est crucifier ta chair et tu te rends compte que tu la crucifies pas en un jour. Petit à petit tu avances et ta maison spirituelle se construit. Mais un jour frère, un jour vient la tempête. Et là se fait la différence. La différence, vous ne la voyez pas quand Dieu bénit. La différence, vous la voyez quand la tempête vient. Et quand ça commence à remuer, et quand ça commence à chauffer, d'ailleurs, la Bible le dit, et Jésus le dit lui-même, quand viennent des persécutions et des tribulations, ils perdent la foi. Ils la perdent parce qu'ils n'ont pas un fondement solide. Et ce matin, mon frère, ma sœur, je t'exhorte à avoir un fondement solide. N'ayez pas simplement une petite foi, une petite croyance. Elle vous mènera à la ruine, elle vous mènera en enfer. Lorsque j'entendais ce frère dire que celui qu'il voyait en enfer, en particulier, et qu'il a marqué, était un pasteur qui hurlait en lui demandant de l'aide. Aidez-moi, je rendrai à l'église tout ce que j'ai volé comme argent. Je me dis, mais quel drame! Le frère dira, ses âmes étaient tourmentées, il n'a pas vu de feu. Un tourment terrible. Frères et sœurs, nous ne prenons pas assez au sérieux l'enfer. On ne prend pas assez au sérieux, eh bien, le péché. On s'accommode, on s'arrange, on l'arrange à notre convenance. On a notre petite théologie à nous. Paul dit aux Philippiens, car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition, ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Voilà ceux qui étaient avec Paul. Ils marchent en ennemis de la croix. Oh, ils sont parfois dans les églises, mais ils ont comme Dieu leur ventre. Ils sont dans les églises, ils chantent Alléluia, mais ils ont comme Dieu leur confort. Oh oui, ils chantent et ils prient, mais ils ont comme Dieu leur maison. Et Paul dira, ils marchent en ennemis de la croix. Est-ce que j'ai dit par cela qu'on n'a pas le droit d'avoir une maison loin de là? Que Dieu te bénisse dans ta maison, que Dieu me bénisse dans ma maison. Mais elle ne doit jamais être l'objectif premier. Jusqu'au bout, je veux te suivre, dit ce chant, dans les bons et les mauvais jours. Troisième point, une vie de compromis. La compromission met la foi en danger. Regardez ce que Josué dit au peuple. Appliquez-vous avec force à observer et à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, sans vous en détourner ni à droite ni à gauche. Ne vous mêlez point avec ces nations qui sont restées parmi vous. Ne prononcez point le nom de leur Dieu et ne l'employez point en jurant. Ne les servez point et ne vous prosternez point devant eux. Mais attachez-vous à l'Éternel votre Dieu comme vous l'avez fait jusqu'à ce jour. L'Éternel a chassé devant vous des nations grandes et puissantes, et personne jusqu'à ce jour n'a pu vous résister. Un seul d'entre vous en poursuivait mille, car l'Éternel, votre Dieu, combattait pour vous comme il vous l'a dit. Nous avons là quelque chose de glorieux. L'Éternel combat pour vous comme il l'a dit. Veillez donc attentivement sur vos âmes afin d'aimer l'Éternel, votre Dieu. Ça, c'est la condition pour rester dans la bénédiction et la victoire. Si vous vous détournez et que vous vous attachez au reste de ces nations qui sont demeurées parmi vous, si vous vous unissez avec elles par des mariages et si vous formez ensemble des relations, soyez certains que l'Éternel, votre Dieu, ne continuera pas à chasser ces nations devant vous, mais elles seront pour vous un filet et un piège, un fouet dans vos côtés et des épines dans vos yeux jusqu'à ce que vous ayez péri de dessus ce bon pays que l'Éternel, votre Dieu, vous a donné. Frères, sœur, je vous en supplie, arrêtez de faire comme le monde. De grâce, revenez à l'Éternel. Craignons-le ensemble. Je suis malheureux quand je vois certains croyants être parfois pires que les non-croyants. On regarde tout et n'importe quoi et votre conscience ne vous parle même plus. Vous regardez des scènes de violence, des scènes d'orgie, et votre conscience ne vous parle plus, et ça ne vous pose pas de problème? Frère, l'Esprit de Dieu parle à nos cœurs. J'aimerais m'adresser à tous les jeunes qui sont là. Il y a de la légèreté au niveau sexuel. Je sais qu'il y a des jeunes sérieux qui aiment Dieu et qui se battent, mais le monde a influencé les jeunes. Je sais que les jeunes, vous êtes exposés du matin au soir dans vos collèges, dans vos lycées, dans vos universités, à la tentation sous toutes ses formes. Je sais que le diable cherchera à vous faire tomber par mille et un moyens, mais de grâce, séparez-vous du monde. Paul dit à Timothée de fuir le péché qui nous enveloppe si facilement. Pas de compromis, ne laisse pas de place. Sois sévère avec le péché et traite-le en tant que tel. Le péché ne sera jamais pour toi un allié, jamais, dis-le-toi bien, c'est toujours un ennemi, toujours. Quelle que soit sa forme, c'est toujours un ennemi. Nous ne pouvons pas faire de compromis en ayant d'autres dieux dans nos cœurs. Dieu ne partage pas sa gloire avec un autre, et il y en a des faux dieux. Mon frère, ma sœur, tu ne peux pas avoir deux dieux dans ta vie. Parfois, plus subtilement, nos dieux, c'est même notre propre famille. Et ta famille passe avant Dieu lui-même. Moi, j'aimerais te dire, si tu apprends à honorer l'Éternel, il bénira ta famille. Mais si tu mets ta famille à la place de l'Éternel, sa bénédiction se retirera. Quelles sont nos motivations? Les compromis te mèneront à perdre la foi. Tu ne peux pas jouer avec le péché. Traite-le vigoureusement. Traite-le sans lui laisser la capacité de s'installer. Il est dit dans Luc 8, ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie et ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Vous savez ce qui est terrible avec ces croyants-là? C'est que vous les avez pendant tout un temps avec vous dans l'église. Parfois 5 ans, 8 ans, 10 ans. Les épines ne grandissent pas d'un coup. Ceux qui sont au bord du chemin, les oiseaux viennent, ils mangent et puis c'est fini. Mais ceux qui font des compromis, vous les avez avec vous pendant tout un temps. Voire vous vous attachez à eux. Vous les aimez, et tout d'un coup, de manière incompréhensible, vous les voyez se détourner du Seigneur, retourner dans le monde. Et là, la parole de Jésus s'applique à eux. Le chien est retourné à ce qu'il a vomi, et la truie lavée est retournée dans le bourbier. Et j'ai vu des hommes qui avaient été lavés par le sang de Jésus retourner, se rouler dans leur saleté du passé. Et j'ai vu des femmes qui avaient vraiment confessé leur péché, l'avaient abandonné, retourner à ce qu'ils avaient vomi. Je l'ai vu, et je l'ai vécu, et j'en suis malheureux. Oui, je veux que les âmes soient sauvées, mais je veux que les croyants restent sauvés. Nous allons arriver au quatrième point, et c'est ma dernière raison ou cause qui met votre foi en danger, une relation peu profonde avec Christ. Dans la parabole du semeur, il est dit « Les autres pareillement reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. » Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils manquent de persistance. Et dès que survient une tribulation, une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. La racine, c'est capital. C'est vital, la racine. Par la racine, la plante boit de l'eau. Par la racine, la plante se nourrit. Mon frère, ma sœur, si tu n'as pas des racines profondes, cela veut dire que tu ne te nourris pas correctement. Je suis parfois surpris de voir des croyants qui se contentent de lire la Bible une fois lorsqu'ils viennent le dimanche au culte. Et ça leur suffit. Je suis parfois surpris de voir des chrétiens qui, oui, la louange le mardi soir, et ça suffit. Mon frère, j'aimerais te dire, applique-toi une politique qui soit celle-ci. Nourris ton âme autant de fois par jour que tu nourris ton corps. Prends autant de temps pour ton âme que tu prends de temps pour nourrir ton corps. Croyez-moi que pour nourrir le corps, on prend du temps. Alors frère, sœur, une relation peu profonde avec Dieu met ta foi en danger. Parce que lorsque l'épreuve vient, ta foi se dessèche. Tu n'as pas la nourriture qu'il te faut. Rappelle-toi de cela. Je veux prendre chaque jour autant de temps pour nourrir mon âme que je prends du temps pour nourrir mon corps. Au travers de la nourriture, nous avons la force pour continuer tout le restant de la journée. Au travers de la nourriture que tu prendras, tu auras la force pour continuer ton chemin jusqu'au bout. Tu ne feras pas naufrage par rapport à ta foi, mais tu vaincras. Je résume les 4 points. 4 dangers pour votre foi. Ne pas écouter sa conscience. Une vie de compromis. Regardez le jeune homme riche. Oh, il faisait tout ce que la loi lui demandait. Tout. Mais il avait un Dieu, ses richesses. Quand Jésus lui a dit d'abandonner, impossible. Il a préféré quitter Jésus que ses richesses. Regardez Lot à Sodome. Tellement habitué au péché dans cette ville. Que finalement, le péché a commencé à devenir quelque chose de normal pour lui. Et se traduira une attitude détestable à l'égard de ses filles. Une vie de compromis. Un manque de relation avec Dieu, une relation peu profonde et un fondement qui n'est pas solide. Le ciel est une réalité. L'enfer est une réalité. Mon désir, c'est que tous ensemble, frères, sœurs, avec nos familles, nous allions dans le ciel. Et je souhaite qu'aucun ne périsse, pas plus que Dieu le souhaite.
Ce message vous est offert par la Porte Ouverte Chrétienne de Mulhouse. Retrouvez-nous sur le www.porte-ouverte.com.